Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera aux alentours de 10h20, mais également Bertrand Chameroy pour son écran de veille et Varrock pour le zapping du lendemain. Avant cela, dans quelques instants, le journal des médias d'Antoine Genton et les audiences de Louise Bernard. Et il y a du carton. Nous sommes ensemble pour 2h en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia autour d'un triste anniversaire. 2 ans après-demain que la cathédrale Notre-Dame s'est embrasée, des dizaines d'heures d'effroi que raconte un documentaire signé Jules Naudet, célèbre dans le monde entier pour avoir notamment co-réalisé avec son frère Gédéon un doc sur les attentats du 11 septembre à New York avec ces images terribles d'avions qui s'encastrent dans les tours. Il sera avec nous. Et puis nos invités, beaucoup plus joyeux, Alex Good et Marie Palot, ils incarnent à leur manière le renouveau de France 4 et respectivement, ils présentent les magazines 1, 2, 3 Lumi et Zin Zin. C'est pour les 8-15 ans, vous allez être étonnés. Et puis l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, Laurent Gounel, il aurait pu être conférencier autour du thème du bien-être et de la réalisation de soi. Il revient avec un thriller, il est question d'incendie en série, décidément, mais également d'intuition personnelle traitée du point de vue scientifique. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Antoine Genton.
Salut Philippe, bonjour à toutes et
Antoine,
à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Des journalistes menacés de sanctions chez Canal+, un documentaire poignant ce soir sur Arte, et puis un nouveau transfert à la télé.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir.
Bien, le carton auquel vous faisiez allusion, c'est celui de TF1 avec sa nouvelle série Le Remplacement avec Joey Stark.
Remplaçant.
Le Remplacement, n'importe quoi. Le Remplaçant qui, avec Joey Stark qui était notre invité hier. Ouais. 6 610 000 téléspectateurs en moyenne sur les deux premiers épisodes. Wow. 27, les deux épisodes tout court d'ailleurs, 27,3% de part d'audience. Le premier épisode écouté était à 7 millions, à presque 7 millions.
Un score à la Marlowe, comme je dis souvent, on lui a porté chance parce qu'il était notre invité dans ce studio hier, Joey Stark.
Exactement. Ensuite, c'est France 2 avec la série Meurtre au paradis qui perd 1 million de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. 3 150 000 téléspectateurs cette semaine, 13,2% de part d'audience. Puis c'est M6 avec Marié au premier regard qui marche toujours aussi bien, 2 950 000 téléspectateurs. Comme la semaine dernière, 12,7% de part d'audience.
Et surtout sur la cible.
Sur la cible.
Culture Média.
La cible des ménagères de moins de 50 ans, comme on dit, la FRDA. Je me tourne vers vous, Antoine Genton, le journal des médias, avec des craintes de nouvelles sanctions, voire de nouveaux licenciements à Canal+.
Des salariés de la rédaction des sports ont été convoqués à des entretiens préalables, soit à sanctions, soit à licenciements. 5 salariés au moins, c'est ce qu'indique le site lesjours.fr. Ces convocations ont été rendues publiques hier par le premier syndicat du groupe Canal+, Plus Libre, qui se dit sidéré par cette démarche. Il soupçonne la direction de vouloir continuer à sanctionner les journalistes qui ont apporté leur soutien à Sébastien Thoen, vous savez, cet humoriste licencié en novembre après avoir parodié une émission du groupe, celle de Pascal Praud. Autre raison avancée par le syndicat, la direction chercherait à sanctionner ceux qui auraient pu faire fuiter l'une des séquences censurées du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste », séquence où l'on voit Pierre Ménès accusé d'agression sexuelle. Le co-réalisateur de ce film, Guillaume Priou, ferait partie des personnes convoquées selon l'équipe.
Le focus programme du jour, Antoine, c'est un documentaire diffusé sur Arte ce soir.
Un film qui aborde un sujet peu connu chez nous, mais très présent et très pesant au Canada, l'acculturation des peuples autochtones, un génocide culturel, disent même certains, qui a duré un peu plus d'un siècle jusque dans les années 90. « Tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant », c'est le titre de ce documentaire, titre éloquent, il dit bien ce qui s'est passé. Des dizaines de milliers d'enfants arrachés à leur famille et placés dans des pensionnats où le gouvernement canadien a tenté de leur faire oublier leur culture. Des enfants qui ont grandi depuis et qui témoignent dans le film, notamment sur les viols et sévices que les prêtres leur ont fait subir. Un sujet encore très sensible et dont il est difficile de parler au Canada, comme l'explique le réalisateur du documentaire, Gwenlawen Le Guil.
Le Canada, c'est un pays très jeune. Le Canada, tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'est constitué il y a à peine plus d'un siècle. Et donc, les Canadiens, aujourd'hui, ont tous des grands-parents, des arrière-grands-parents, voire des parents qui ont participé à cette colonisation, qui ont participé à cette politique du gouvernement, qui voulait notamment faire de ces Amérindiens une classe à part, une population à part. Donc, on comprend aisément que le tabou est très, très fort, que ce sentiment de honte et de responsabilité est très présent chez les Canadiens aujourd'hui, ce qui explique en grande partie le fait qu'ils aient mis aussi longtemps à ne serait-ce que regarder ce problème pour essayer de le régler.
Il a fallu attendre 2015 pour que l'État canadien présente des excuses. C'est le Premier ministre Justin Trudeau qui l'avait fait. Mais cela n'a pas vraiment changé la vie des autochtones. Souvent en marge de la société, ils sont des milliers à errer dans les rues de grandes villes canadiennes. Certains sont alcooliques ou dépendants aux opioïdes. Autre signe, il y a bien plus de meurtres de femmes amérindiennes que de meurtres de femmes blanches. Une réalité révoltante qui commence à susciter une mobilisation portée par le mouvement MeToo.
Il y a une vraie prise de conscience, il y a un début de mouvement qui réclame des droits pour ces femmes et puis surtout la justice et puis surtout des enquêtes de police, puisque le problème à l'origine, c'est que très régulièrement, quand une femme disparaît, quand une Amérindienne disparaît, et ça arrive toutes les semaines au Canada, ou quand le corps d'une Amérindienne est trouvé au petit matin dans la neige sur le bord d'une route, il n'y a pas d'enquête de police. Ou alors l'enquête est très vite menée, puisque très souvent les conclusions de l'enquête disent voilà, c'est une mort naturelle ou une mort par hypothermie ou une mort soudaine, sans explication, même si le corps comporte des traces de violence. Donc souvent ces enquêtes sont bâclées et c'est ce qui explique que le phénomène continue.
Gwenlawen Le Guil, réalisateur du documentaire Tuer l'Indien dans le cœur de l'enfance, c'est sur Arte ce soir à 22h15 et déjà disponible sur la plateforme arte.tv.
Une nouvelle recrue pour RMC Découverte.
Après Mike Horn, c'est Antoine de Maximi qui rejoint la chaîne 24 de la TNT. Lui et son émission J'irai dormir chez vous. Vous en écoutez le générique, émission diffusée sur France 5 ces dernières années. RMC Découverte proposera d'anciens numéros le samedi soir, avant d'en tourner de nouveau un peu plus long que ceux déjà diffusés, une heure au lieu de 52 minutes.
Et puis du jamais vu, les Européens regardent davantage la télévision que les Américains.
3h54 contre 3h32 précisément l'an dernier, c'est le résultat de l'étude annuelle menée par l'agence Glens. C'est la première fois que l'Europe devance les États-Unis sur cet indicateur. Deux raisons à cela. Une forte hausse de la consommation de télévision en Europe, plus 15 minutes, due évidemment au contexte sanitaire, on en a déjà parlé ici. Et puis une nette baisse aux États-Unis, moins 8 minutes. Les Américains, eux, ont préféré regarder les programmes des plateformes.
Valeurs Actuelles perd le tiers de ses revenus publicitaires.
Oui, conséquence de la victoire judiciaire en appel de l'entreprise qui commercialise les espaces publicitaires du site du magazine Taboola. C'est une information de Capital.fr. Taboola avait mis fin à son contrat avec l'hebdomadaire suite à la publication en août dernier d'un roman fiction sur la députée insoumise Danielle Obono. Elle y était représentée en esclave. Un article ouvertement raciste, discriminatoire et offensant selon Taboola. Article incompatible avec les valeurs de la société et contraire selon elle au contrat signé avec Valeurs Actuelles.
Et puis l'État a tranché. FranceSoir.fr reste classé comme site d'information.
C'est une décision de la commission paritaire des publications et des agences de presse qui date de vendredi dernier. Décision motivée par la présence de journalistes professionnels au sein de la rédaction de FranceSoir. Il y en a quelques-uns. La commission n'a pas tenu compte des nombreuses critiques adressées au site. FranceSoir est régulièrement accusé de relayer des thèses complotistes et de fausses informations, des accusations que ne prend pas en compte la Commission. Avec ce statut, FranceSoir peut donc bénéficier d'avantages fiscaux et d'aides publiques de l'État, mais pour le moment, il n'en a pas fait la demande, selon le ministère de la Culture.
Merci beaucoup Antoine Genton. Toutes ces infos, on peut les retrouver avec d'autres dans la newsletter Média d'Europe 1, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. Antoine Genton, Louise Bernard, merci beaucoup, bonne journée. On vous retrouve demain,
à demain,
pour un nouveau journal des médias et les audiences.
À demain.
Dans un instant, notre info Média du jour avec un focus sur un documentaire qui retrace l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, survenu il y a maintenant 2 ans. Nous en parlons avec Jules Naudet, il est co-réalisateur et co-producteur de ce doc Notre-Dame de Paris. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'était il y a 2 ans des images sidérantes, celles de Notre-Dame de Paris en flammes, un incendie qui a commencé en toute fin d'après-midi, le 15 avril 2019, et qui a duré toute la soirée et toute la nuit. Ce sont ces heures d'effroi et d'angoisse que raconte un documentaire diffusé ce soir sur TMC, un récit très détaillé de la lutte contre ce gigantesque incendie, le récit du jour où la cathédrale Notre-Dame a failli disparaître. Bonjour Jules Naudet.
Bonjour.
Vous êtes le co-réalisateur et le coproducteur du film avec votre frère Gédéon, vous connaissez tous les deux pour avoir réalisé 2 autres docs, l'un sur les attentats du 11 septembre à New York qui a fait le tour du monde et l'autre sur les attentats du 13 novembre à Paris, également très vu, musique.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Alors c'est avec Yves Montand que débute votre documentaire « Sous le ciel de Paris », chanson qui témoigne de l'insouciance d'une belle journée de printemps dans la capitale, je m'en souviens. Des centaines de touristes visitent Notre-Dame, parmi eux quelques lycéens en sortie scolaire. Il est 18h15, la messe commence.
La messe a déjà commencé et du coup on s'installe vers le fond de Notre-Dame, dans les derniers rangs.
Je reste un moment d'ailleurs à regarder le plafond parce qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait.
Surtout on remarque qu'en regardant les vitraux, on voit de la fumée un peu en suspension et une odeur aussi de brûlé qui se fait ressentir.
De la fumée, une odeur de brûlé, que se passe-t-il ensuite ?
Ben justement, ensuite l'alarme retentit. Et va arriver cette espèce de course pour essayer de trouver est-ce que c'est une vraie alarme, une fausse alarme, ou est-ce que c'est. Et là, enfin, le régisseur et un des gardiens vont monter et vont se trouver devant ce spectacle terrible qui est la forêt est en train de brûler.
La forêt, on va dire ce que c'est.
C'est justement cette espèce de... c'est sous le toit de Notre-Dame, composé de 1700... arbres, ouais. cette structure entière qui est en train de, au milieu est en train de brûler déjà avec des flammes de 8 mètres de haut.
Pour se représenter ce que c'est l'équivalent d'une forêt de 21 hectares. Alors les pompiers arrivent rapidement sur les lieux par dizaines. Parmi eux, le commandant des pompiers de Paris, c'est le général Gallet. Il est surpris et il est inquiet.
Je marque quand même un temps d'arrêt. Je ne sais pas comment on va faire. Il va falloir trouver une solution pour éviter que le feu ne perce la voûte, ne descend de la charpente et tombe à l'intérieur de la nef. S'il descend en bas, pour moi, c'est pratiquement foutu, quoi. Des incendies qui sont produits avec ce type de scénario montrent que c'est pratiquement impossible à enrayer.
Alors pendant que vous l'interrogez, le général des pompiers est un peu hésitant. On le voit encore à d'autres moments dans votre documentaire. Ça vous a surpris ? C'est pas ce qu'on attend d'un général des pompiers. Moi, je pensais que c'était carré, orthonormé, orthodoxe.
Bah, c'est ça qui est extraordinaire parce qu'on a interviewé beaucoup de pompiers dans notre carrière. Et c'est, je dois dire, la première fois qu'on les voit aussi candides. Un pompier de Paris surtout, et militaire, donc très strict. Et là, de voir ces émotions, de voir cette parole un peu plus naturelle, nous a fait très plaisir. Je pense que ça vient d'une grande connaissance. On se connaît bien avec le général Gallet, mais aussi avec les pompiers que j'admire beaucoup. Et donc, je pense que c'est cette confiance qu'ils ont eue en nous et de vouloir raconter leur bravoure. Mais c'est la bravoure de ce jour-là, mais qu'ils font tous les jours, toutes les nuits, en dehors des spotlights de la caméra.
Alors, ceux des pompiers, notamment des généraux qui commandaient les opérations jusqu'aux sapeurs qui étaient en première ligne, on va en entendre quelques-uns. Mais avant cela, est-ce qu'il a été facile de les convaincre de parler ?
Ben, comme tout, c'est toujours un travail de moi à leur expliquer, à qu'ils comprennent d'où on vient. Bon, c'est vrai que nos antécédents, en tant que c'est vrai groupie de pompiers, on n'en est jamais caché. On leur doit.
Oui, parce qu'on va raconter la base. Le sujet que vous avez fait sur le 11 septembre, ouais, à la base, c'était un documentaire sur les pompiers.
Sur la caserne, une caserne à New York. Et je me retrouve dans les tours avec les pompiers. Après avoir filmé le premier avion qui s'en cache, je me retrouve à l'intérieur des tours avec eux. Et c'est eux, au moment où la tour sud va s'écrouler, qui vont me sauver alors que je suis dans la tour nord.
Ouais. Parmi les pompiers qui vous parlent, il n'y a pas que des gradés, que des gens au rang les plus élevés. Il y a également Marie-Ange, jeune sapeur, dont c'était le premier feu à Notre-Dame. Elle n'a pas de repère, elle part au contact du feu en inspection, sans bien se rendre compte du brasier qui l'entoure.
Mais c'est ça qui est extraordinaire. Jeune recrue, elle est là depuis quelques semaines, comme tout pompier, elle espère un feu, mais elle représente cette dualité extraordinaire. C'est d'un côté, un pompier ne veut pas qu'il y ait d'incendie, mais s'il y en a un, ils veulent être les premiers, ils veulent aller le plus loin et ils veulent sauver. Et donc de voir en elle ce mélange d'enthousiasme, mais en même temps de pas savoir ce qui va se passer, d'espérer d'être à la hauteur, est extraordinaire, je trouve.
On va entendre un extrait saisissant. C'est Marie-Ange et ses collègues en pleine intervention. Certains sont montés avec leur lance à incendie et ils font face à un brasier particulièrement puissant.
Ça va, plus en attaque, plus la toiture commence à s'effondrer. Je suis obligé de faire relayer mes personnels toutes les deux secondes. Il fait une chaleur mais impressionnante, limite insoutenable. C'est là où j'ai l'impression que mes gants ils sont en train de fondre. Et mes personnels devant la porte, à ce moment-là, ils me disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'il fait vraiment trop chaud. Je les regarde et je leur dis, les gars, de toute façon, il faut qu'on continue. On ne peut pas s'arrêter là, on pourra rien faire d'autre.
Et je rappelle que c'est un pompier qui parle. Oui. Donc il en a vu du feu, il en a vu de la chaleur, il a vu des gants qui avaient chaud.
Ouais, mais là, c'est unique. La chaleur qu'il a vu, le plomb qui tombe comme une de la lave dans la nef, ils n'ont jamais vu ça. Et pourtant, comme il le dit, c'est il faut qu'on continue, il faut qu'on y arrive. Et justement, le grand danger, c'est là où les officiers, ce qu'ils doivent faire, c'est rattraper leurs hommes, de temps en temps, littéralement par les épaules, en disant « Mais non, tu reviens en arrière, c'est trop dangereux, parce qu'ils veulent se lancer dans la gueule du monstre. »
Dans le doc, il y a des images très fortes d'étincelles et de brasiers. Ce qui est saisissant également, ce sont les témoignages que vous avez recueillis. C'est à la fois, on voit un découragement passager et également cette volonté de combattre jusqu'au bout.
C'est sauver ou périr. C'est quand même le principe de la
C'est la
devise des pompiers de Paris. Sauver ou périr, qui représente là exactement ce qu'ils vont faire. Oui, c'est énorme. Oui, ils sont un peu découragés au début, mais ensuite, on va y arriver.
À moins que je me trompe, sauver ou périr, la devise n'est pas citée dans le doc.
Non.
Vous la citez là maintenant,
Je la cite maintenant, mais elle reste en notre tête. Qui est quand même, c'est ce qu'ils font tous les jours. Et ce soir-là, ils ont failli périr.
Voilà. Pourquoi vous l'avez pas mise dans le documentaire ?
Bah, ça, c'est ensuite.
C'était le sous-texte ?
Oui, voilà. C'était là. On n'avait pas besoin de le faire aussi. Aussi
de manière aussi marquée. Alors, ce qui frappe aussi dans ces témoignages, c'est la manière dont le feu est décrit. Les pompiers en parlent comme si c'était un être vivant, si c'était un ennemi imprévisible, insaisissable, mais comme s'il existait vraiment.
Ouais. Mais c'est là où on voit, ils en parlent comme si, de façon un peu mystique, médiévale, c'est le chevalier contre le dragon. Ouais. Parce que c'est ça pour eux, c'est ce respect qui vient de sachant que le feu peut les tuer, mais ils peuvent tuer aussi le feu.
Je souris parce qu'au Moyen-Âge, on croyait que les dragons existaient vraiment, comme les licornes. les images de flammes sont impressionnantes. Quelles sont les images avec lesquelles vous avez travaillé, puisqu'évidemment, vous n'étiez pas là ce fameux 15 avril ?
Bah, ça, c'est le plaisir de travailler avec une équipe, avec beaucoup de talent. C'est des gens qui nous ont permis de retrouver les images. Les pompiers qui ont eux-mêmes des équipes vidéo qu'ils ont envoyées au cœur du feu, mais aussi notre équipe a fait du porte-à-porte dans toute l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, tout autour, pour retrouver ces images jamais vues, filmées par les riverains.
Ouais, à l'époque, on appelait ça de la raflette. C'était par image, qui était fait une immense spécialité d'avoir les photographies absolument incroyables que personne n'avait. Je me souviens par exemple des photos géniales de matchs pendant la guerre des Malouines récupérées chez les habitants que jamais on n'aurait pu obtenir. Sinon, on a trouvé ça. On trouve ça dans votre documentaire. Et il y a aussi une histoire incroyable que vous racontez. On en parle juste après ça. Nous sommes avec Jules Naudet. Il a co-réalisé et coproduit le doc Notre-Dame de Paris qui passe ce soir sur TMC. Il est avec nous, donc avec vous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Jules Naudet, co-réalisateur du documentaire diffusé ce soir à 21h15 sur TMC Notre-Dame de Paris. Il revient sur l'incendie terrible de ce 15 avril 2019. Merci beaucoup, je ne l'avais pas écrit donc je le cherchais dans ma tête. On va voir des images pendant que les pompiers luttent contre les flammes. Il y a un autre combat, celui qui est mené pour sauver le trésor de Notre-Dame. Il s'agit de trois reliques, un morceau de la croix du Christ, un des clous utilisés pour sa crucifixion et une couronne d'épines. Et le récit de leur sauvetage est épique, plein de rebondissements. Exemple, quand, après deux échecs, le régisseur de la cathédrale entre en scène, c'est lui qui vous raconte ce qui s'est passé.
On arrive dans la chapelle, et les reliques dans cette chapelle sont enfermées dans un coffre-fort qui est posé au sol. C'est un coffre avec quatre serrures. Il y a trois serrures chiffrées, et la quatrième serrure est la serrure générale qui déverrouille l'ensemble. Donc je mets la clé dans la première serrure, je fais le premier chiffre qui est 0. Je mets la clé dans la deuxième serrure et là, trop de mémoire. Impossible de me rappeler du chiffre, ni de la deuxième, ni de la troisième serrure.
Ça paraît complètement invraisemblable. Comment il s'en sort ?
Enfin, quelqu'un arrive, le sacristain arrive avec le fameux code. Mais c'est tout un tas de... C'est une série de sketchs. On pourrait se dire, on aurait mis ça dans un film. Ils ont dit, mais c'est trop gros. Ouais. Comme quoi, la réalité est beaucoup plus... Parce qu'avant ça, trouver la clé. Mais c'est un espèce de labyrinthe. Il y a des centaines de tableaux de clés qui ouvrent encore d'autres tableaux de clés. Mais c'était, en fait, c'est ça qui est incroyable.
Il y a une scène incroyable juste avant l'épisode du coffre avec les régisseurs qui entrent dans une pièce de la sacristie. Il y a des centaines de clés accrochées dans des dizaines de placards, on a peine à le croire. C'est pas facile de mettre en scène toutes ces images et pour cause, il y en a pas.
Ouais.
Comment vous avez fait ?
Justement, on a pris un pari justement pour certains moments où on n'a pas les images d'intérieur, on a fait appel à des gens pour faire des animations, en fait, des dessins. On voulait pas le côté un peu 3D moderne tout ça, donc on a demandé à des artistes très talentueux de dessiner et ensuite on a animé pour donner un peu cette texture un peu plus ancienne.
Donc finalement, vous n'avez pas souffert du manque d'images. Avez fait avec.
Ça nous a permis de un peu trouver une façon différentes de faire les choses.
Comme une contrainte. Le combat contre les flammes continue, le tableau est alors apocalyptique, la flèche de la cathédrale s'est effondrée, il y a désormais deux foyers, celui de la charpente et celui créé par l'effondrement dans la cathédrale, dans la nef. Pour rien arranger, les pompiers aperçoivent un début d'incendie dans l'une des deux tours, la tour nord si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'ils se disent alors ?
Eh bien là, ils font face à la réalité que s'ils ne font rien, la cathédrale va s'écrouler. Car quand ils rentrent à l'intérieur du beffroi, la tour nord, ils s'aperçoivent que les poutres qui tiennent ces cloches qui pèsent des tonnes et des tonnes est en train d'être ravagées par les flammes. Et donc, s'ils ne font rien, les poutres vont casser, les cloches vont tomber, vont détruire la tour nord, la tour sud va ensuite s'écrouler et tout le reste comme un château de cartes.
Mais là, il y a autre moment d'hésitation.
Oui, parce que la seule solution que le général Gallet doit prendre, qui est une situation quand même, une décision très dure, est-ce que j'envoie un commando d'une vingtaine de pompiers au risque que ça s'écroule quand ils sont là, ou on abandonne et on a perdu la cathédrale pour sûr.
Finalement, la décision qui sera prise est celle-ci. On lance une opération, il y a urgence. La charpente de la tour commence à brûler. Une poignée d'hommes est donc lancée à l'assaut des flammes. Accès difficile, le mot est faible, il y a peu de place. Et deux hommes sont en première ligne, extrait.
On ne sait pas où on met trop les pieds, donc on progresse à tâtons et on va de foyer en foyer en tenant la lance. On va cracher d'un côté, on progresse en regardant bien le plancher, on va de l'autre côté.
La guerre continue en fait. Et à ce moment-là, on se dit, bah là on est dedans, là on est dans le thème, là ça fonctionne. Et là je me rends compte que les flammes commencent à être abattues et qu'on va en venir à bout. Là je me dis, ok, encore un gros effort et on va y arriver.
Ils ont fini par y arriver. Est-ce que ça s'est joué vraiment à quelques minutes, comme le laissent entendre les témoignages ? Est-ce que vous avez été totalement objectif ou est-ce qu'il y a une part de dramatisation dans votre doc ?
Non, totalement objectif, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a parlé ensuite à des experts qui ont regardé les poutres et tout ça. Ils se sont dit, mais on était à 15-20 minutes près.
Il y a déjà eu quelques documentaires sur le sujet. Mmh. Je me souviens d'un, notamment produit par David Pujadas. Qu'est-ce qui vous démarque d'eux ? Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau qu'on ne savait pas précédemment ?
Je pense que nous, à chaque fois, ce qu'on fait, donc on ne fait pas d'enquête, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la parole humaine. Et de montrer, surtout là, sous ces espèces de Superman et Superwoman, qu'est-ce qu'il y a sous cette cape, sous cet uniforme ? Eh bien, il y a un être humain. Il y a un père, il y a une fille, il y a un mari. Et ce qu'on veut montrer, c'est donner la parole à ces pompiers qui, généralement, comme on l'a dit au début, parlent de façon très militaire. Et là, se livrent de façon beaucoup plus humaine. Et ça, je pense que c'est notre marque de fabrique. On arrive à capturer cette humanité chez les gens.
Et vous ne faites pas parler que les pompiers, il y a également Monseigneur Chauvet qui pleure à la fin.
Extraordinaire personnage qui a un charisme fou et en même temps, grâce à lui, on voit sur son visage cette plaie en lui de ce symbole de Dieu et qui lui-même s'interroge. Mais Dieu, pourquoi fais-tu ça ? Et donc de voir en lui, sur son visage, ce questionnement qui est habituel et qui est normal et très très beau en plus parce qu'il parle très bien et apporte une émotion en plus religieuse à tout ça.
Ah oui, il est le recteur de la cathédrale voilà. Et il est toujours ému quand il y retourne, quand il y va. Est-ce que vous-même, vous êtes allé dans la cathédrale depuis ?
Alors, j'y suis allé en septembre 2019, justement pour filmer les images quand il ressonne le bourdon. Et ça a été une expérience absolument magique. Parce que voir, au début, on rentre, la cathédrale est quand même éventrée, il y a une plaie béante là. Et subitement, de monter ces marches, arriver et de voir ces gens en train de sonner ce bourdon, c'est comme, en fait, j'avais l'impression que Notre-Dame était un patient dans le coma et subitement se réveillait avec cette première parole. Et c'était extraordinairement puissant.
C'est un moment aussi grave, puisque c'était à l'occasion de la mort de Jacques Chirac.
Exactement. Et pourtant, cette tradition continuait. Et, sauf qu'elle était faite à la main, ce qui n'avait jamais eu lieu depuis des centaines de...
Prochain projet, vous savez déjà sur quoi vous allez travailler, seul ou avec votre frère, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
Toujours avec mon frère, on est cette créature bizarre d'un corps et de tête, mais bon, on est très superstitieux, donc tant que je n'ai pas encore fini les autorisations, mais on a un projet en France et un projet aux États-Unis.
Merci beaucoup Jules Naudet, je rappelle, vous êtes le co-réalisateur et le co-producteur de Notre-Dame de Paris, documentaire diffusé ce soir à 21h15 sur TMC. Dans un instant, on va parler de programme jeunesse de France Télévisions, 1, 2, 3, Lumi et Zinzin, ce sont deux magazines. Nous serons avec leurs animateurs, animatrices respectives, Alex Good et Marie Palot. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Alex Good.
Bonjour.
Présentateur de télévision, metteur en scène également, vous avez vu sur M6, notamment dans La France en Incroyable Talent, 2009-2015. Désormais, vous incarnez un peu le renouveau du service public, puisqu'on peut vous voir avec la Maison Lumière à la fois sur la 3, sur la 4, sur la 5. Bonjour Marie Palot.
Bonjour.
Vous aussi, en quelque sorte, vous incarnez le renouveau du service public. Vous êtes encore plus jeune qu'Alex Good, quel âge ?
32.
Oh, elle est beaucoup plus jeune.
Bon, on dirait qu'on a 20 ans d'écart, c'est pas le cas.
Vous connaissiez ou pas du tout?
Alors, on s'est croisés dans la rue, mais il y a très longtemps.
Voilà, et puis ce qui est drôle, c'est qu'on a les mêmes passions, puisque moi, je suis très, très pop culture.
Ouais.
Beaucoup de jeux vidéo, je travaille dans le jeu vidéo depuis 30 ans. Je suis encore l'égérie de Micromania, qui est un magasin de pop culture. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs, puisqu'elle adore tout ça. Elle est même vivante Totoro aujourd'hui. Donc,
et vous aimez aussi, si j'ai bien lu, les voitures qui vont vite.
Oui, j'aime beaucoup les voitures.
Comme Alex Good.
C'est incroyable.
Vous avez fait la Formule Renault ou quelque chose comme ça.
Exactement.
Je ne m'attendais pas à parler de ça maintenant.
Il est bien renseigné, ce Philippe, c'est tout.
C'est-à-dire que je travaille avant de faire une émission, c'est un truc de dingue. Alors, vous avez débarqué tous les deux sur la plateforme Oku et sur France 4. Vous-même, Marie Palot et Xinzin, magazine de la culture pop. On va en reparler, mais d'abord, je me tourne vers vous, Alex Good, parce que c'est vous qui avez le plus d'annonces à faire. Après la Maison Lumni, après les cahiers de vacances Lumni, après le club Lumni, voici donc 1, 2, 3 Lumni. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est encore de l'école à la maison?
Non, alors pas tout à fait. C'est le triptyque va ensemble. Déjà, pendant ces vacances-là, on a réinstallé les cahiers de vacances Lumni et le jeu Lumni, qui pour le coup, lui, continue, qui est tous les jours en quotidienne. Et en fait, 1, 2, 3 Lumni vient compléter tout ça. C'est-à-dire que les cahiers de vacances, ce sont des cours pur et simple. Le jeu Lumni, ce sont des cours aussi, mais faits sous forme de jeux ludiques avec les parents et les enfants. Et 1, 2, 3 Lumni, ça vient compléter tout ça et on est plus sur le bien-être de l'enfant en général, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien avec les autres.
Et donc
les trois sont complémentaires. D'où les trois, oui. D'où le 1, 2, 3, et c'est bien dans son corps, bien dans sa tête, bien avec les autres.
Ce sont les trois parties de l'émission, c'est ça?
Exactement. Oui.
Il y a beaucoup d'intervenants. Il y a trois parties, mais beaucoup d'intervenants. Vous avez toujours deux co-présentateurs, des jeunes téléspectateurs qui interagissent via Skype, comme par exemple Nicolas. C'est une sorte de petit génie, il a seulement 13 ans, et il vous en met plein la vue.
Alors Nicolas, toi t'as 13 ans, t'es en 4e, et il paraît que t'es super doué en informatique, c'est vrai ça?
Oui, c'est vrai, j'aime bien l'informatique et la programmation.
Bah tu fais quoi par exemple? Tu fais des jeux?
Oui, et ça m'est aussi arrivé de développer des sites internet.
Ah carrément? Ah oui, d'accord, c'est énorme. Et alors, autre truc génial aussi, il paraît que tu parles hyper bien chinois.
Oui, comme dans ma famille on parle chinois, du coup oui, je prends aussi des cours de chinois.
Eh ben non, c'est pas mal. Comment on dit 1, 2, 3 Lumni en chinois?
Yi'e san Lumni.
Marie Palot, vous avez réagi. Vous parlez chinois?
Alors, j'ai appris le chinois à la fac, mais je crois que je sais juste dire maman et cheval. Et c'est tout ce que j'ai retenu d'une licence.
Mais pourquoi cheval,
même,
surtout? Parce que maman,
c'est le premier mot qu'on apprend. Parce que ça, selon le son, ça ne veut pas dire la même chose. Ça peut dire maman ou cheval, mais c'est deux
mots. Juste pour avoir une idée, vous êtes allé combien de mois en cours?
Franchement, j'ai dû faire 2 mois de cours de fac de lettres.
Un mot par mois, oui, c'est pas mal. Moi, en allemand, j'ai fait 7 ans et je pense que je connais 7 mots. Donc, t'es bien meilleur que moi.
Juste un mot, vous êtes d'origine coréenne.
C'est bien ça.
Vous parlez le coréen?
J'ai appris le coréen sur le tard, il y a à peu près 2-3 ans.
Parce que vous avez été adoptée quand vous étiez toute petite.
Exactement.
À l'âge de 4 mois, si j'ai bien lu. Je reviens à l'émission de demain dans 1, 2, 3 Lumni, Alex Good. Vous connaissez les invités, le sommaire, vous avez tout en tête?
Oui, à peu près.
Je vais vous aider. Si vous ne les avez pas, je les ai notés. Qu'est-ce qu'on verra demain?
Je sais déjà, ce qui est très important, parce qu'on a la partie bien-être où on aborde des sujets qui sont parfois difficiles d'aborder avec les enfants.
Oui.
On a des psys qui viennent nous parler. On a fait déjà, par exemple, le transgenre à l'école, l'homosexualité. Voilà, demain, c'est le harcèlement scolaire qui est quand même un sujet qui est quand même très prenant aujourd'hui entre les réseaux sociaux et puis ce qui se passe à l'école. Donc on en parle demain avec notre psy qui sera sur le plateau pour nous expliquer des petites astuces. Et puis après, pour le sport, on a un champion de trottinette qui vient, qui fait des trucs de fou avec sa trottinette.
Ah ça, j'ai vu, je pensais même pas que c'était possible. Je vous dis ce que j'ai fait, j'ai regardé l'émission et je l'ai passé en image par image. Le type fait un double saut périlleux, c'est en 6 images.
Oui, oui, c'est sur Alice, ça va à toute vitesse, on comprend même pas comment c'est possible.
Ouais, je dis ça pour les gens qui apprennent 2 mots en 2 mois.
Voilà, on a toujours Juju et Lily, par exemple, qui sont nos petits jeunes reporters, qui sont les spécialistes des fake news et qui vont décortiquer et qui vont nous apprendre à pas nous faire avoir par des fausses nouvelles, comme ça arrive fréquemment. Non, pas pour dire que ça m'est arrivé il y a pas longtemps, mais enfin bon, bref, voilà, ils nous apprennent tout ça. Et puis on a aussi toujours un auteur de BD qui vient nous apprendre à dessiner, nous parler de sa BD. Enfin, c'est vraiment, c'est plus culturel et sociétal.
Et
que
l'auteur de BD,
autres.
Il faut être très très fort. Hein. Il est filmé par une caméra verticale.
Ouais.
Moi j'ai essayé, je suis pas arrivé.
Ah,
comment vous choisissez les sujets? Vous faites office de rédac-chef ou vous êtes simplement l'animateur de l'émission?
Non, pas du tout. On a toute une équipe de production qui travaille avec nous depuis les cahiers de vacances Lumni. On est tout un petit groupe comme ça qui travaille tous ensemble. Et c'est vrai qu'on réfléchit sur les sujets. Par exemple, le transgenre, c'est vrai que c'est moi qui voulais absolument en parler.
Mm-hmm.
Parce que je trouve qu'on n'en parle pas du tout à la télé et que c'est quand même pour les enfants aujourd'hui un sujet complexe comme l'homosexualité où je voulais qu'on en parle aussi. Puisque bon, c'est pas que ça m'a touché.
C'est un sujet dont on parle beaucoup plus.
Voilà, on en parle plus. Mais c'est vrai qu'au niveau des enfants, si tu veux, les parents ne savent pas toujours quoi dire par rapport aux autres élèves. Mm-hmm. Et même les enfants eux-mêmes entre eux ne savent pas forcément quoi dire. Donc là, au moins, on aborde ces sujets-là et c'est ça que je trouvais passionnant dans cette émission.
Même question pour Marie-Lé Palot. Est-ce que vous êtes juste la présentatrice ou est-ce que vous faites un peu office de rédac-chef? Est-ce que vous supervisez ce qu'il y a dans l'émission?
Alors moi, je suis arrivée en cours de route puisque la saison 2 avait démarré et c'est en janvier qu'elle a véritablement changé de formule. C'était une création de Julien Dupuis. Il y a toute une équipe de prod, donc Empreinte Digitale derrière, et Julien Dupuis qui s'occupe de l'édito. Et c'était du tout en images. Moi, je suis arrivée pour incarner tout ça. Aujourd'hui, il me demande mon avis parce que il est comme ça, il est hyper créatif, il est courtois et en plus, il a vraiment à cœur que ça me plaise. Ouais. Mais aujourd'hui, l'émission existe déjà en elle-même et moi, je l'incarne. Donc, c'était le principe aussi de base.
Le concept de Zinzin, c'est lequel ? Zinzin, ça veut dire magazine.
Exactement.
Voilà.
Le principe, c'est donner accès aux plus jeunes à la pop culture. Ça peut être des grands classiques du cinéma, ça peut être un jeu vidéo qui cartonne en ce moment sur Twitch, ça peut être une bande dessinée, ce sera toujours bienveillant et c'est surtout leur montrer qu'aujourd'hui, même si on est noyé par Internet sous un flot d'informations, on peut leur apporter un autre regard sur quelque chose qu'ils connaissent peut-être déjà.
La cible de l'émission, la tranche d'âge, c'est laquelle ?
C'est 7+, 12+, en fait... Les parents peuvent regarder.
Vous avez arrêté où le 7 plus jusqu'à quel âge ? Qu'à 15 ans ?
Je dirais 7, 12, ouais. 7, 13. On peut pousser, ça dépend. Des fois, on peut parler du dernier jeu vidéo Spider-Man.
Oui, moi, je conseille surtout aux parents de regarder.
Ouais.
Parce,
ça,
que, parce que le problème, c'est que tu as beaucoup de parents aujourd'hui qui disent oh là, non, je ne regarde pas ça, les jeux vidéo, les machins. Et c'est justement là où tu peux avoir un problème, un décrochage. Et c'est parfait pour les enfants, pour les parents, de regarder aussi cette émission, comme c'est bien de regarder un 2-3 alumni, pour apprendre des choses qui concernent leurs enfants quand même.
Pour employer un mot galvaudé, pour partager.
Exactement.
Pour voir ce qui se passe réellement. Là, l'émission va être consacrée, c'est celle de demain, le 14 avril. On va la trouver sur Oku et en linéaire sur France 4. Ce sera le 17 à 11h50, le samedi. Vos deux émissions sont le samedi, pas à la même heure évidemment. Elle sera consacrée aux cauchemars.
Exactement. Les enfants font beaucoup de cauchemars, donc, et puis les adultes aussi. Hein, Donc je veux dire, c'est un thème qui touche tout le monde et on va parler de bande dessinée, de jeux de plateau, de manga. De films aussi.
Avec une BD absolument formidable que j'avais déjà lue, dont j'avais reçu l'auteur Franck Tillier ici.
Très, la Brigade très bonne. Des Cauchemars.
Exactement. Vous êtes seul en plateau, vous êtes habillé comment ?
En général, je suis.
Non, mais là en l'occurrence.
Demain, comment je suis habillé ?
Je voudrais que ce soit vous qui décriviez, parce que moi. Non, parce que franchement,
c'est vrai, je veux dire, elle a toujours un look un peu particulier.
Non, là,
ça fait son charme.
Elle fait les cauchemars. Elle est jambes nues. Elle a une grande chemise blanche. Alors, j'ai pas su si c'était une grande chemise trop longue ou une chemise de nuit trop courte. Un peu comme si vous sortiez du lit, que vous venez de vous réveiller. C'était
oui,
ça l'idée.
Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Puis en plus, le réalisateur, qui est donc un crack du cinéma, a voulu faire un petit clin d'œil. Il y a des vrais films qui mettent vraiment mal à l'aise. Donc, du coup, je sais pas si c'est gardé au montage, mais il y a des séquences un peu étranges.
Toutes les séquences mal à l'aise sont gardées au montage. Je vous rassure.
Let's go.
On va entendre le démarrage de l'émission, vos premiers mots.
Salut, c'est Marie. Oh non. Ah oui, vous êtes là. Salut, on est zinzin, pas zinzin. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de. Ben non, pas de pirate, de. Oh, j'ai oublié mon texte. J'ai oublié mon texte. Quel cauchemar horrible. Oh non, ça va pas se passer comme ça. Hein. Parce que dans cet épisode, on va découvrir d'où viennent les cauchemars et surtout comment les combattre.
Ça, c'est le cauchemar des animateurs télé, Alex Good. D'arriver sur le plateau et de ne pas avoir son texte.
Oui, mais enfin, après, on s'en sort en général.
Mais vous n'avez jamais rêvé ça ?
Non, j'ai jamais
rêvé
ça.
Le seul cauchemar que je peux faire encore, c'est celui-ci. C'est j'arrive et j'ai rien préparé. Je ne sais pas qui est l'invité, j'ai pas de questions, etc.
Avec votre talent, vous en sortirez quand même.
Tu parles, oui, c'est ça un cauchemar. Les précédents thèmes, vous les avez en tête ? Parce que ça va dans tous les sens, votre émission Zinzin.
Franchement, on a fait de tout. On a fait justement les pirates, on a fait les magiciens, mais pas forcément la magie comme les sorciers, etc. Mais vraiment les magiciens, les prestidigitateurs. Voilà, vraiment battu là.
Je vais indiquer les intitulés. Allez les voir sur Oku parce qu'on peut tout retrouver. Dans La tête des chiens, Portrait de famille préhistorique, Nos amis les zombies, Les licornes en folie, De cap et d'épée ou en mode ninja. Quel programme ? Vous restez avec nous, Marie Palot et Alex Good. Culture Média continue. On a encore plein de questions à vous poser.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Alex Good, qu'on peut retrouver sur Lumni et sur la plateforme Oku. Votre émission, c'est 1, 2, 3 Lumni, mais pas seulement. Celle-ci, elle est le samedi à 17h30. Avec vous, il y a Marie Palot qui présente Zinzin. C'est le samedi à 11h50 sur France 4. Évidemment, sur la plateforme Oku, quand on veut. Marie Palot, vous étiez également présente sur la chaîne G1. C'est une chaîne spécialisée, centrée sur les jeux vidéo, c'est bien ça ?
Sur les jeux vidéo et la pop culture asiatique. C'était vraiment la petite sœur de Game One, qui, elle, historiquement, est la chaîne du jeu vidéo. Mais moi, j'étais sur G1, qui a été créé du coup en 2013.
Alors, je vais essayer de bien prononcer. N-Y-U avec un tréma, S-U, show. Vous présentiez le New Sous
Chou.
Exactement.
On prononce comment ?
Newsu, c'est genre la japonification, si je peux dire, de news.
Ouais.
Donc Newsu Show, le news show.
En japonais.
Exactement.
Oui. Newsu Show.
C'était centré autour de la culture asiatique, vous l'avez dit. C'était un choix de votre part ou c'est les producteurs qui vous ont demandé ça ?
C'était le choix édito, en fait, de cette nouvelle chaîne. C'était de créer un magazine quotidien qui parle vraiment de manière très très large de la culture asiatique. On parlait de cinéma hongkongais, de cuisine coréenne, de musique japonaise. C'était très très large.
C'est bon la cuisine coréenne.
Je vous parle de ça parce que vous dites avoir fait une drôle de découverte. C'est dans TV Mag que j'ai trouvé ça, du 4 janvier 2019. Le journal vous interroge au sujet du racisme, de l'identité, savoir si vous vous sentiez plus française ou coréenne. Et votre réponse m'a vraiment étonné. Vous avez dit « Lorsqu'il s'est agi de moi pour parler de culture asiatique à la télévision, j'ai réalisé que je l'étais asiatique. » Et que j'avais également été casté pour ça.
Bien sûr.
Vous ne vous en étiez pas rendu compte auparavant ?
Non, parce que en fait, le casting s'est fait tout à fait par hasard. J'ai envoyé mon CV alors qu'on n'était plus du tout dans les deadlines. Ça faisait 3 mois que le casting était fermé. Enfin, ils allaient prendre quelqu'un d'autre, qui en fait s'est avéré être mon rédac chef par la suite. Et en fait, ils ont pris. C'est la seule explication que j'ai pour avoir pris cette petite meuf de Montpellier qui avait un accent du sud absolument horrible et qu'il fallait.
La petite meuf de Montpellier, c'est vous, hein.
C'est moi. Hein. Donc à l'époque, quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, on la met à l'antenne du jour au lendemain. Je me suis dit, ok, ils m'ont pris parce que je suis asiatique, mais ils m'ont pris évidemment aussi parce que j'étais passionnée de manga, de jeux vidéo, de musique coréenne. Donc c'est aussi pour ce côté-là, ce côté frais d'amener quelqu'un de nouveau. Game One et MTV Global a toujours lancé des jeunes talents. Donc.
Cette considération de votre origine, est-ce qu'elle est entrée en ligne de compte quand France Télévisions vous a appelé ? Est-ce que c'est un sujet dont vous avez parlé avec eux ?
Non, jamais. Ils voulaient vraiment quelqu'un qui incarne le programme, qui soit frais, qui soit jeune, qui sache aussi de quoi ça parle.
Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas demandé.
Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que si dans les sujets, on va parler d'un jeu vidéo et que je ne sais même pas comment ça se prononce, c'est un peu compliqué. Donc déjà, on gagne des petits raccourcis.
Est-ce que l'époque a changé ? Est-ce que le racisme est devenu plus violent ? Je veux dire le sens de ma question. Dans cette même interview de TV Mag, vous dites quelque chose qui m'a encore frappé. Vous dites « Je n'ai jamais vécu de racisme ou de discrimination.
Ouais. »
Mais aujourd'hui, vous êtes très présente sur Twitter. Votre compte, j'ai regardé ce matin, à 168 630 followers, c'est pas rien. Et il s'appelle Stop Asian Hate, arrêtez la haine anti-asiatique. Pourquoi cette appellation si vous n'avez jamais vécu ni le racisme, ni la discrimination ?
J'ai été adoptée donc à l'âge de 4 mois. Je ne parlais pas du tout la langue de mon pays natal. Je m'appelle Marie-Charlotte. J'étais plus qu'intégrée. J'ai toujours été dans un cursus scolaire privé. J'étais la seule asiatique en fait. Et avec le temps, c'est comme si tout s'était gommé. Toute ma culture natale s'est gommée puisque j'ai pas grandi avec ça. Et quand je suis arrivée sur J1 et que du coup, du jour au lendemain, j'ai été propulsée comme l'asiatique qui parle de culture asiatique à la télé, là, ça m'a frappée. Là, je me suis rendu compte que tout ce qui m'avait protégée jusqu'ici, parce qu'en fait, j'étais pas asiatique quand j'étais plus jeune, s'est mis à exploser autour de moi. J'ai commencé à avoir conscience aussi que ce bagage culturel peut être aussi la cible de racistes, mais comme historiquement, ça a toujours été le cas pour tout le monde. Mais en ce moment, il y a une recrudescence de racisme anti-asiatique, due notamment à cette crise sanitaire. Et ce qui se passe aussi aux États-Unis, c'est le hashtag vient de là, c'est effarant. C'est-à-dire qu'il y a un crime par jour, une agression sur une personne de la communauté asiatique, en général des personnes faibles, des personnes soit handicapées, soit âgées. Donc la lâcheté à son paroxysme. Et ça arrive aussi en France. Il y a eu des cas d'agression.
Qui a un rapport avec l'idée qu'on se fait que le virus viendrait de Chine.
Exactement.
Alex Good, vous comprenez son combat contre les discriminations ?
Bah, bien sûr, je le mène aussi moi-même en permanence.
Bien sûr, vous êtes la cible aussi d'attaques sur les réseaux sociaux.
Oui, d'attaques. Ou dans mes spectacles, je parle beaucoup de la différence. Pour moi, différence, c'est normal. C'est ce que je dis très souvent. Et c'est vrai qu'on est tous différents.
Ouais.
Et je trouve qu'on vit quand même une période assez violente. Quoi. Ouais. Voilà, je vais pas trop bien sur la fake news de la semaine dernière qui disait que j'étais au dîner de Pierre Chanson où j'y étais pas.
Oui.
Je me suis pris des milliards d'injures.
Profitez-en, dites-le, vous n'y étiez pas.
Mais non, j'y étais pas du tout. C'est-à-dire que c'est comme si on te dit il faut plus être avec des pandas et on te sort une photo de toi avec de plusieurs mots où tu es avec un panda si tu veux.
Mais j'ai quand même été dans le restaurant de Pierre.
Mais c'est pas un restaurant, j'ai été chez lui avec un click and collect qu'on a pris en bas, dégueulasse en plus, au resto où on était 5 parce qu'il voulait faire une exposition de Napoléon à Las Vegas, tu veux. Donc, mais rien à voir avec la choucroute. J'ai jamais été dans un dîner payant chez lui avec un chef, des serveurs, jamais. Et je me suis pris un flot de haine hystérique où j'ai franchement, j'ai pas dormi pendant 3 jours, j'ai pleuré tous les jours. Enfin,
Enfin, c'est un truc de fou. Tu te retrouves dans une fake news. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est, tout le monde réagit au quart de tour pour le moindre truc. Il n'y a vraiment plus aucun recul. On est une société qui fait vraiment flipper. Et en l'occurrence, ça n'a rien à voir. Mais sur la différence, c'est vrai que c'est un combat permanent. Et je trouve que c'est de pire en pire. Je suis comme toi. Mais sur toutes les différences, que ce soit le racisme, l'homophobie, la haine du riche, du pauvre. Enfin, tu vois, on est dans un truc de fou. Perso, je trouve.
Ouais. Marie Palot, vous avez découvert la Corée à 27 ans seulement, et vous attendiez à être, je vous cite, noyée dans la masse. Est-ce
oui,
que ce
totalement.
Fut le cas une fois que vous avez déboulé à Séoul ?
Non, parce que trop française pour être coréenne là-bas et trop coréenne ici pour être véritablement française, en tout cas en grandissant.
Ouais.
Mais en fait, c'était bien de pour une fois ne pas être la seule asiatique de la pièce. Quoi, donc, mais le problème aussi, c'est que mon mec de l'époque me confondait avec absolument toutes les filles dans la rue de dos. Donc,
ah, c'est sympa.
C'est bon, pas
ça, c'est pas incroyable. Mais,
vous êtes toujours avec le mec ?
Non, je suis plus avec. C'est peut-être pour ça.
Ça a l'air froid.
Voilà, mais non, mais c'était vraiment bien.
Et il y a quelque chose autour des yeux qui s'est passé.
Oui, tout à fait. En fait, je suis allée là-bas pour me reconnecter à mes origines. Et c'est là-bas que je me suis faite ce qu'on dit débrider les yeux. En fait, c'est pas débrider les yeux, c'est juste rajouter les paupières que vous avez, le petit trait au-dessus des yeux, là, pour avoir un maquillage plus grand.
Ouais.
En gros, c'est ça. Et j'ai fait ça comme on rentre dans une boulangerie pour acheter du pain. Je suis rentrée par curiosité. Ils m'ont dit « Oui, mais on peut prendre rendez-vous maintenant, dans 30 minutes ». Et c'était fait en 30 minutes, quoi. Mais là-bas, c'est un acte tout à fait anodin. Et je voulais, pour mon premier passage en Corée, vivre l'expérience coréenne à tous les niveaux. Donc j'ai vraiment.
Moi, j'y suis allé aussi en Corée. J'ai fait Pékin Express en Corée. Je peux te dire, j'ai découvert. C'est un truc de fou. Hein.
Ouais. Mais vous n'êtes pas fait opérer.
Non,
je ne suis pas fait opérer.
Merci beaucoup de cette bonne info. Alex Good, et je suis content que vous ayez appris des choses sur Marie Palot. Alex Good, Marie Palot, vous les retrouvez dans 1, 2, 3 Lumni et Zin Zin. Ce sera samedi sur France 4. Vous trouvez les horaires, vous les trouverez également sur la plateforme Oku. Merci d'avoir été avec nous.
Hein, Lumi.fr aussi.
Évidemment, j'avais oublié de le dire, vous avez raison. Culture Média continue évidemment. Il y aura le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un doc sur l'incroyable parcours d'un tableau d'art et Bertrand Chamerois pour son écran de veille anniversaire. Notre invité, c'est Laurent Gounelle, l'un des écrivains français les plus lus. Il raconte des livres feel good et là, bim, c'est affreux, c'est un thriller, c'est un tueur en série. Ça parle d'intuition et c'est pas des élucubrations, c'est scientifique. Dans les indispensables, une chanteuse en séance de thérapie et un voyage en Colombie-Britannique. Vous avez vu comme qu'elle est riche cette émission. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.